On va y revenir avec Zora Bitan, Bruno Poncet, Emmanuel Devilliers. Le drame de Sanary, c'est cette adolescente de 14 ans qui a poignardé sa professeure. Il avait la haine, il avait la rage. Alors, ce qu'on n'arrive pas à savoir précisément, c'est quel était son environnement familial. Il y avait un suivi éducatif, mais on s'est aperçu, à travers les perquisitions des enquêteurs, qu'il avait chez lui une espèce de collection de couteaux parce que c'est lui qui l'a dit, hein. Il trouvait ça stylé.
Oui, on en a appris plus hier. Bon, déjà, c'est prémédité. Il a prémédité son agression. Il en voulait à cette prof pour des remarques qu'il avait reçues sur l'application Pronote, hein, cette application qui permet de gérer la vie scolaire. Il trouvait ça injuste. Donc, il prend un couteau dans sa cuisine le matin. Il n'a pas pris ses couteaux de collection parce qu'en plus, il a des couteaux de collection. Il trouve ça stylé. C'est ce qu'il a dit aux enquêteurs. Et donc, avec son couteau, il est parti en Opinel. Il est parti en pleine classe et devant une vingtaine d'autres élèves, il a poignardé à 4 reprises quand même sa prof qui est toujours entre la vie et la mort malgré une opération et qui son pronostic vital est engagé sur plusieurs jours. Elle est hospitalisée bien entendu toujours. Et puis on apprend qu'un signalement avait été effectué en mars par le collège à la suite de suspicions de violence commises par ses parents sur sa jeune sœur. L'enquête avait été classée sans suite, mais un rendez-vous avec les services de protection judiciaire avait été pris et devait avoir lieu le 5 février. Donc ça se passe en mars et on attend le février de l'année suivante pour voir ce jeune et voir s'il n'est pas perturbé par tout ça. Ce qui fait dire à Darmanin, ministre de la Justice, qu'il y a peut-être un petit retard à l'allumage. Il va falloir aller un peu plus vite au ministère de la Justice si on veut protéger les enfants. Et dans toute cette histoire, pas un mot sur les parents.
Ben oui.
On ne sait pas qui ils sont, quel est le profil. Le môme, il a 14 ans, il est donc sous la responsabilité de ses parents. Ses actes, ce sont ses parents qui doivent l'assumer. Et c'est quand même le grand oubli.
Bah, d'où ça vient tout ça ? Moi qui suis aux avant-postes de l'éducation depuis de nombreuses années et impliquée dans l'éducation populaire auprès des jeunes, ce qui m'a toujours fait hurler, c'est l'État, lorsqu'il met des dispositifs en place, il met souvent des dispositifs pour les jeunes et il a toujours exclu les parents qui font partie de la première chaîne éducative. Ne l'oublions pas que dans la chaîne éducative, les parents sont en première ligne. Ensuite, il y a l'école, le sport, le centre aéré, le soutien scolaire, etc. Mais ce sont les parents. Et quand vous regardez bien dans toutes les politiques publiques qui sont mises en place, le parent, il est toujours le dernier qu'on va chercher. À la fois, non pas pour le sanctionner toujours, mais aussi pour l'accompagner, pour l'aider, etc. Et ce qui fait qu'on découvre aujourd'hui, mais où sont les parents ? Mais en fait, c'est les premières personnes concernées. L'État n'a pas à pallier, un enseignant n'a pas à apprendre à un jeune à dire bonjour, à s'asseoir, etc. Oh, sauf qu'aujourd'hui, il y a des enseignants qui sont confrontés à un manque d'éducation des jeunes, un espèce d'enfant roi qui se croit tout permis. Et ils arrivent plus à gérer. On dit retard à l'allumage, c'est vrai. Mais quand il y a comme ça harcèlement, frustration, enfants violents, moi je me souviendrai toujours quand Sarkozy avait dit en 2012, je crois, il avait dit il faudrait détecter la violence des enfants dès la maternelle. Tout le monde avait hurlé. Mais en fait, c'est du bon sens. Ça veut dire que c'est pas détecter pour stigmatiser, c'est détecter pour accompagner, prévenir et faire en sorte que cet enfant, quand il sera adolescent, ce sera pas un violent. En fait, personne, tout le monde met tout sous le tapis et puis on découvre que des enfants arrivent avec des couteaux. Mais à quel moment la famille a eu un ministère ? À quel moment la famille a été une priorité ? Les centres médico-psychopédagogiques, c'est un an d'attente, voire plus, ils ont tous été fermés. La santé mentale, n'en parlons pas. La monoparentalité, tout le monde est en freestyle chez lui. Les mères, elles vont travailler à 5h du matin et rentrent à 8h le soir. Le môme, il est dehors, tout le monde s'en fout. Les centres aérés avec l'histoire des rythmes scolaires, et ben on a dit qu'à l'adolescence, ben en fait, il n'y a plus de centre aéré. Les mômes rentrent au collège, il n'y a plus de centre aéré. Terminé, ils sont dans la nature. Et ben les parents, il faut qu'ils aillent travailler. Donc, comme la famille n'a jamais été une priorité et qu'elle n'a jamais été signifiée de cette manière-là comme priorité à la fois pour les familles monoparentales, et ben aujourd'hui, les gens, je ne dis pas qu'ils sont irresponsables, mais je dis qu'à un moment donné, si on ne dit pas aux parents vous êtes responsables de vos enfants et que s'il y a un problème, vous avez le droit de le dire, et on va faire ce qu'il faut, et ben en fait, tout le monde, on arrive à ces situations-là.
Quand t'as 14 ans, t'as une collection de couteaux chez toi.
Les parents sont responsables.
C'est stylé.
Mais bien sûr, ils sont responsables.
Non, les parents sont irresponsables de laisser ton gamin faire une collection de couteaux. Je suis désolé.
Oui, bien sûr.
On va remettre le truc en ligne. Quand t'étais gamin, moi, quand j'étais gamin, qu'on trouvait mon lance-pierre, je peux te garantir qu'il était cassé devant moi. Et quand j'avais un opinel dans la poche, je te garantis, je prenais une claque et restais à la maison.
Donc,
à un
moment donné, responsabilité des parents est première.
Oui, mais ils sont irresponsables dans leur tête surtout, parce que laisser ton gamin faire une collection de couteaux à 14 piges. Après, moi, j'aimerais bien que Darmanin fasse autre chose que commentateur judiciaire, parce qu'en fait, l'enquête est même pas finie. T'as rien. Enfin, aujourd'hui, t'es en train d'attendre que la prof puisse être sauvée. Et il commence déjà à parler en disant que c'est une faute de son ministère. Bah, je vais te dire, lui, depuis qu'il est au gouvernement, entre la justice et la police, il a quand même pas fait des merveilles. Hein. Donc, ça serait bien qu'il reste un peu en retrait et puis qu'il laisse les choses se faire. Après, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je peine encore à comprendre comment tu peux laisser un gamin, à un moment donné, s'obscurcir comme ça pour arriver à avoir une collection de couteaux, pour arriver que le matin, quand il parte à l'école, alors même si les parents sont déjà partis au boulot, mais qu'il parte à l'école avec des trucs dans la poche. Moi, je sais pas, mais quand j'étais gamin et que mes parents sentaient que j'allais faire une connerie, je peux te garantir, pendant longtemps, ils me fouillaient mon sac. Hein. Et matin et soir, hein, parce qu'ils savaient que... Bon, déjà, ils trouvaient mes clopes. Déjà, je me faisais tanner.
Est-ce que tu oublies, Bruno, c'est qu'il y a plein de parents déséquilibrés qui vont pas bien, qui sont pas mieux.
Oui, mais alors, moi j'en ai marre. La responsabilité de tout le monde.
On arrête les commentaires. Les commentaires,
et
c'est
qu'il
terminé.
Et qu'il faut punir. Mais est-ce que j'ai justifié socialement? J'ai dit qu'un gosse qui a un couteau, il a aussi les parents.
Arrêtez les parents immédiatement. On les interpelle immédiatement, déjà, comme ça on aura des informations. Et ensuite, pour éviter que des jeunes déviants fassent des choses horribles, parce que c'est latent, il y en a partout, il faut des sanctions gravissimes qui fait que le petit con, il va quand même réfléchir en disant, si je passe 10 ans en prison et que je pourrais plus rien faire, je pourrais plus avoir ma PlayStation ou je sais pas quoi, il va réfléchir. Il faut essayer de faire réfléchir cet arrêt.
Je pense qu'il va y aller là.
On a Guillaume. À mon avis, hein. Guillaume veut réagir des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Guillaume.
Comble, bonjour à tous.
Bienvenue. Bonjour Guillaume. C'est l'histoire du couteau qui vous a fait réagir, qu'il avait une collection de couteaux.
J'ai toujours vu, moi, les anciens, en avoir un sur eux, qui servait à tout, sauf à tuer quelqu'un. Et moi, jeune, je me suis intéressé à ça, et j'en avais une collection.
À quel âge ?
À partir de, je dirais, 12-13 ans, j'ai commencé la collection.
Ah bon ? Et vos parents vous ont laissé faire ?
Mais bien sûr. Sauf que j'avais pas... Ça m'est jamais venu à l'idée que ça servait à tuer quelqu'un, premièrement.
Voilà.
Si jamais il sortait de la chambre, j'avais le retour derrière la peur de mes parents. J'ai jamais été un enfant battu, rien. Hein. J'avais juste de l'autorité. Et derrière, ça a été une collection qui était sur une étagère et que on faisait grandir au fil du temps. J'ai 46 ans, j'ai toujours eu un couteau sur moi à partir de l'âge de 14 ans à peu près.
Mais ça sert à quoi d'avoir un couteau sur soi ?
C'est comme les vieux,
pour un bout de sel. Oui, c'est vrai.
Vous en servez
tous les jours.
Ouais.
Vous mangez avec ?
Ah ben je vais manger avec. J'ai une entreprise de nettoyage. J'ai des aspirateurs qui tombent en panne. Ça me sert à dénuder des fils.
C'est un truc utilitaire. C'est pas voilà.
Mais si on n'habitait pas Paris, moi j'en ai un dans les poches. Mais j'habite Paris. Dès que tu passes un endroit, tu bipes. Donc en fait, tu veux plus avoir de couteau. Moi, je me suis retrouvé au tribunal à Paris avec le couteau dans la poche, pensant que c'était, tu sais, c'est mon couteau de boulot. J'avais mon sac de boulot. En fait, j'ai grandi comme Guillaume avec un couteau.
Allez-y Guillaume.
J'ai la chance d'être au Pays Basque et de pas avoir le problème de se faire contrôler en permanence.
Oui, mais c'est Guillaume, là, on a affaire à un môme, je dis môme parce qu'il a 14 ans, et pourrait être notre enfant, qui, visiblement, est un élève perturbateur à l'école, donc il y avait un souci. Visiblement, il y a des problèmes à la maison, avec cette suspicion de violence sur la jeune sœur, bon, ça a été classé sans suite, enfin quand même, la protection judiciaire de la jeunesse voulait le voir. Donc, il y a quand même un contexte. Visiblement, il va pas très bien.
Oui.
Bah, quand quelqu'un va pas très bien, on lui laisse pas des couteaux à 14 ans. Enfin, c'est du bon sens. C'est pour ça que moi, je suis d'accord avec Emmanuel. Je comprends pas que tes parents n'aient pas été convoqués tout de suite.
Placés
en garde à vue.
Arrêtez immédiatement.
Là le problème. C'est qu'on laisse pourrir la situation. On va pas chercher les parents en premier.
Il y a ce cas d'espèce. Mais il y a un caractère d'exemplarité. C'est pas le président qui arrive là, en rigolant un peu comme Minot. En peur sur la ville, là, faire des commentaires là-bas sur place, qui va régler quoi que ce soit.
En plus, c'est
Allez-y, Guillaume.
Sur le coup, il y a un signalement qui est fait. Il y a tout un processus qui n'a pas été suivi par la justice ou par les services sociaux. Mais on ne peut pas incriminer quelqu'un parce qu'il a une collection de couteaux en disant attention, ça va être un danger. Là, ce sont bien des cas précis. Où la justice et les services sociaux ont été défaillants.
Ah bah.
Ouais, mais enfin, bah, moi, que tu collectionnes.
Dans cette histoire.
Que tu collectionnes les vignettes Panini, tu vas peut-être te couper le doigt avec. Mais enfin, quand tu collectionnes les couteaux et puis que t'as déjà un pet au casque, à un moment donné, tôt ou tard, ça va pas bien se finir. Enfin, je veux dire, aux États-Unis, à chaque fois qu'il y a des tueries de masse, le mec, il adorait les armes. Il en avait sous son lit. Qu'est-ce qu'il fait? Le mec, un jour, il les prend. Ma prof, tiens, tu vois, là, l'exemple, moi, j'entends, Guillaume, ce que tu dis. Mais là, la prof, elle lui met un truc sur Pronote. Le gamin, ça lui plaît pas. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend pas sa collection de couteaux. T'as raison, il prend le couteau de boucherie de sa mère. Donc, en fait, on est dans un gamin qui était peut-être omnibulé par les armes, mais qui surtout, ça va à quoi ça servait. Toi, tu dis, moi, je savais même pas que ça servait à tuer quand j'avais 12-13 ans. Moi, j'entends. Mais ce gamin-là, 14 ans, c'est très bien à quoi ça servait, que s'il mettait 4 couteaux à sa prof, il allait pas lui faire un trou pour rien.
Concernant les fouilles, il faut arrêter aussi de fantasmer là-dessus. C'est pas réaliste de mettre des fouilles comme pour prendre l'avion. C'est des structures extrêmement lourdes. Ça coûterait un argent fou. Et en plus, ça exciterait les salopards pour trouver une combine, parce qu'une école n'est jamais hermétique. Ça servira à rien au final.
Tu n'as pas connu ça. Moi, j'ai 53 ans. J'ai connu, moi, des pions qui regardaient ton sac quand tu rentres à l'école, surtout quand t'as 13-14 ans et que tu commences déjà à faire des conneries. Déjà, moi, je me suis fait gauler mes clubs quasiment.
Le problème d'un couteau, c'est que tu peux le mettre sur toi.
Bah oui, mais écoute, mais en fait, dans tout ça, c'était surtout pour pas amener des gros trucs. Parce que si tu prends un coup de canif, moi, j'avais souvent un opinel sur moi, je vais te faire du mal, mais j'ai pas amusé à te trancher la gorge. Hein. Quand on était gamin, ça m'amusait pas à se piquer avec quand même. Mais par contre, le gamin qui t'emmène un truc plus gros, ouais, là, ça commence à être problème. Moi, à mon époque, c'est Nunchaku. Les mecs, ils avaient des nunchaku, ils savaient pas s'en servir. Vous avez des shurikens. Des shurikens aussi. Ah, ça, le point américain, moi, j'en avais dans la poche. Mais t'as le shuriken aussi. Non, mais t'es, quand on était gamin, on serait tous pour
Bruce Lee. Moi, je me souviens, ado, je m'étais acheté un cran d'arrêt.
Ah oui, ça, c'est bon.
Parce que je fantasmais sur le cran d'arrêt.
J'en ai encore un chez
moi,
j'ai retrouvé.
Quand ma mère était tombée dessus, je peux te dire qu'elle me l'avait confisqué. Et après, je fouillais partout pour essayer de le retrouver, mon grand arrêt.
Mais nous, on avait des couteaux.
Je l'ai jamais retrouvé.
Mais nous, on avait des lames qui dépassaient pas la moitié de la largeur de notre main. Parce que sinon, on savait qu'on se rigolait par les flics.
Oui, mais après, à l'époque, on avait ça. C'était pas pour planter la
non,
prof.
Non,
c'était parce qu'on voulait faire cacou, quoi. Voilà.
Mais donc, Olivier, toi, t'avais le cran d'arrêt payé.
Il y a la question de l'autorité aussi de l'enfant ou du jeune en rapport avec l'autorité. Nous, pour nous, l'enseignant, le maître d'école, le policier, c'était une figure d'autorité. Oui. Ça allait de soi.
Même si on pouvait le détester.
Même si on pouvait le détester.
Entre nous, on
donc
pouvait
on
dire,
avait,
je
on
déteste
avait cette distance quand il levait la voix ou quand il disait un truc, on flippait de se prendre une rouste ou alors d'aller être dénoncé à nos parents.
Une précision sur le propos de Bruno Poncet, notre cher révolutionnaire Henri Bann, c'est que les nunchaku, c'est extrêmement dangereux si on ne sait pas les utiliser. Ça peut mal finir.
Emeric veut en parler avec nous aussi. Emeric de Haute-Savoie. Bonjour Emeric.
Bonjour.
Bonjour Emeric.
Qu'est-ce que vous en dites, vous, Emeric, alors?
Ben moi, ce que l'on dit, c'est que déjà hier matin, il y a quelque chose qui m'a choqué sur votre antenne, c'est qu'il y a une secrétaire. Alors le problème, c'est que du coup, il y en a tellement qu'aujourd'hui, on ne sait plus d'où ils viennent. Mais il y a une secrétaire de l'État qui est venue sur votre antenne tôt le matin et qui expliquait qu'en gros, l'État, par le biais de l'école, par le biais de la justice, devait se remettre en question par rapport à ces problèmes de sécurité à l'école. Mais en fait, le problème qui me choque, c'est qu'en fait, on oublie, comme vous avez dit tout à l'heure, la place des parents. Mmh. Aujourd'hui, les parents, vous voyez, pour rentrer en école maternelle, par exemple, il fallait que l'enfant soit propre, soit social, voilà. Aujourd'hui, maintenant, on a des AESH, on a des maîtresses d'école maternelle qui changent des couches. Parce que même pour rentrer en école, il n'y a plus la notion déjà d'être propre. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure, on retire les problèmes des parents pour les transférer à l'État.
L'éducation, oui, on a transféré.
Du coup, voilà. L'école, c'est l'instruction. L'école, on vous apprend à lire, on vous apprend à compter, on vous instruit. L'éducation, c'est les valeurs. C'est le bonjour, c'est le savoir-vivre en communauté. Quand les parents, aujourd'hui, font des enfants, les abandonnent, les laissent grandir sauvagement, dans cet état-là, eh ben le problème, c'est que ça donne ça. Ça donne des enfants qui sont perturbés, ça donne des enfants qui n'ont pas de cadre, ça donne des enfants qui aujourd'hui deviennent violents et qui aussi peuvent se faire engrainer dans de la délinquance parce qu'ils n'ont pas de cadre, parce qu'ils n'ont pas de référence autoritaire de la part des parents. Ça ne veut pas dire être méchant, ça veut dire savoir dire non, ça veut dire savoir créer de la frustration chez l'enfant. Quand on ne crée pas tout ça, ça donne ça.
Oui,
aujourd'hui, on apprend qu'il a un problème psychiatrique. On nous dit que potentiellement, il a un problème psychiatrique, cet enfant. Et c'est grave. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a suivi ça. Et surtout, c'est qu'un enfant ne devient pas avec ces problèmes-là, comme ça, du jour au lendemain.
Non.
C'est vrai.
Voilà. Ça veut dire que si les parents auraient été là, il y a une responsabilité de ces gens-là. Ils l'ont fait, cet enfant. Il n'est pas apparu comme ça tout seul. Ça veut dire qu'à ce moment-là, eh ben, on doit tirer une responsabilité. C'est pas l'État qui doit se remettre en question et dire voilà, l'État ne doit pas soigner tous les maux du monde. Il faut pas oublier que l'école, on vous instruit. L'éducation, les valeurs, c'est les parents qui les donnent.
Mais Aymeric, ce que vous dites, c'est vrai, c'est factuel, c'est vrai. Et l'ordre, l'autorité, la rigueur, l'éducation, c'est des valeurs universelles. Elles sont ni de droite ni de gauche. C'est quelque chose qu'on doit exiger. Mais le problème, c'est que lorsque les parents démissionnent sur ce rôle d'éducation qui a pour vocation de faire des enfants qui, dans le collectif, se comportent correctement, et ben en fait, ils mettent en danger toute l'école et toute la République, tout ce pourquoi les enfants sont. Et en fait, il est là le problème, c'est-à-dire que quand on est, moi j'ai ma petite fille qui est en collège, elle est en train de vivre un harcèlement. Croyez-moi que on doit être derrière, parce que le renversement de la charge, c'est de dire votre.
Je peux te poser une question. Ta petite fille harcelée. Oui. Est-ce que les parents ont été voir les parents du harceleur pour régler le truc?
Non, pas encore. Non,
bien sûr, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Je suis désolé.
Mais oui.
Tu vas voir les parents. Et
moi,
tu
j'ai
dis,
des
écoute,
audios.
Si vos enfants n'arrêtent
moi, j'ai
pas,
des audios des jeunes filles qui harcèlent ma petite fille. Faut voir les gros mots. Faut voir ce qu'elles disent.
Quel âge?
11 ans, 12 ans, collège. Et ce qui m'a inquiété, c'est que l'école a dit à ma petite fille, qu'en gros, elle était responsable. Donc j'ai dit ça va prendre une tournure encore de dingue.
La gamine à qui on a dit ça, c'est jeté sous un
voilà. Et donc ouais, moi mon fils m'a appelé en urgence et m'a dit mais maman c'est pas possible. Donc on est en train de gérer ça alors que en fait tout part d'une histoire banale. Oui, ils se bousculent, terminé. Et là il y a une armée de gamines qui se liguent et qui se met sur le dos de ma petite fille et j'écoute les audios avec des gros mots incroyables. Je me dis mais c'est l'école. Ouais,
justement, on pourra en reparler tout à l'heure quand on évoquera ce qui s'est passé à Saint-Genis-Laval dans la banlieue lyonnaise. C'est terrible, hein. Cette gamine, adolescentes.
J'ai pas pu regarder la vidéo tellement c'était violent, quoi.
C'est une jeune fille qui est tombée dans un guet-apens de deux jeunes filles qui elles-mêmes sont déjà connues de l'école et même de la gendarmerie pour des faits de violence. La jeune fille s'est fait rouer de coups, coup de pied dans la tête.
Mais on tombe toujours sur le problème des sanctions.
Elle a dû être
première acte des sanctions draconiennes.
Mais on en parlera tout à l'heure
quand
à 11h20.
On tape la tête, c'est qu'on veut tuer, hein.
Là, je remercie Guillaume et Aymeric d'avoir été avec nous du côté des Pyrénées-Atlantiques et de la Haute-Savoie. Merci Guillaume, merci Aymeric d'avoir été dans la discussion. Bonne journée, messieurs.
Bonne journée.
Merci d'avoir été avec les grandes gueules.